Et passons à présent au deuxième film de la soirée, Dali, avec 6A comme autant d'acteurs pour incarner non pas Dalida, mais Salvador Dali, auquel Quentin Dupieux consacre ce film en forme de faux biopic. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que les deux films n'étaient peut-être pas si éloignés. Chaque semaine, j'ai un peu de mal à trouver comment résumer un film pour que les spectateurs qui ne l'auraient pas vu ne soient ni perdus ni spoilés. Ce sera plus facile ici, parce que c'est un film quasiment impossible à spoiler, sinon à vous dire à quel moment il s'arrête, mais ce serait tout, hein, globalement. Donc une journaliste, ancienne pharmacienne, Judith, c'est Anaïs de Moustier, souhaite faire l'interview de Salvador Dali, qui ne cesse de lui échapper, parfois au dernier moment, en annulant ou en décrétant que tout cela est inadmissible, cependant que lui, le peintre, la star, est aux prises avec un curé qui raconte un rêve et, ou encore a des réflexions sur son âge. Et voilà. Film solaire, joyeux, coloré, lumineux, j'ai tout simplement beaucoup aimé, il était à la fois un nécessaire bol d'air, sans pour autant céder au pur formalisme ou au film de potes qu'on avait pu voir dans Fumer fait tousser par exemple, un concept sympathique mais limité et qui s'essoufflait vite et surtout qui ne passe pas l'épreuve du temps, hein. C'était à mon revisionnage du Dain que j'avais trouvé en fait ça très faible. Non, je pense que Dali est appelé à durer, je le lui souhaite en tout cas, parce qu'il est rare d'avoir un film qui soit franchement drôle et intelligent à la fois, sans rien céder à une esthétique folle et avec un casting impeccable que j'oubliais de cité. Gilles Lelouch, Edouard Baird, Jonathan Cohen. Y a-t-il un film sans Jonathan Cohen aujourd'hui? Je ne crois pas. Pio Marmaille ou encore Romain Duris. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? On commence avec Victoria.
Alors moi, il faut dire que j'attendais ce film avec une grande impatience et que mon attente a été aussi longue que la prononciation du titre du film, Dali, Si A. C'est un film que j'ai trouvé... jubilatoire, qui rend bien hommage au surréalisme et à la folie de Salvador Dali. J'ai beaucoup aimé, c'était un bol de fraîcheur, comme tu l'as dit, Louis, je te rejoins tout à fait là-dessus. J'ai aimé tous les hommages qui étaient rendus, et je pense qu'on va en reparler, les hommages qui sont rendus à Buñuel, par exemple, dans Le Charme de la bourgeoisie, aussi Un chien andalou, il y a tout ça qui est évoqué et qui transparaît dans le film. Mais je dois dire, et c'est peut-être à cause de cette attente infini de ce film, j'ai un avis un peu en demi-teinte vis-à-vis de Dali. C'est un film que j'ai donc, comme je l'ai dit, beaucoup aimé, qui m'a fait passer un très bon moment. Je crois qu'il dure 1h12, un peu plus, quelque chose, un peu plus, un peu moins, avec beaucoup de scènes cocasses, de situations cocasses, et puis voilà, un grand va-et-vient, une grande complémentarité entre rêve et réalité, de l'onirisme, c'était très, très agréable à voir. Cependant, sur le plan du jeu, je trouve que le jeu est très inégal entre les acteurs. Alors j'ai adoré Edouard Baird, je suis personnellement une fan d'Edouard Baird, je trouve qu'il avait toute sa place dans ce film. Edouard Baird et Jonathan Cohen, on les oublie complètement derrière Dali et sa moustache. En revanche, Pio Marmaille et Gilles Lelouch, je m'interroge vraiment sur l'utilité en fait de les convoquer, de les inviter à l'écran. Et puis je me dis, quelle est l'utilité, quel est le besoin d'avoir fait appel à tous ces acteurs de renom, très connu, très populaire. Quel intérêt? Est-ce que c'est pour gonfler le générique? Est-ce que c'est vraiment une plus-value pour le film? Je serais intéressée d'en parler avec vous autour de la table.
Merci beaucoup. Claire, ton avis?
Alors moi, je sors du cinéma, donc c'est un avis qui est forcément un peu tranché, mais j'ai trouvé que c'était un film qui était vraiment un objet indescriptible, mais très très cohérent, et que ça, mine de rien, ça fait quand même vachement plaisir de voir une cohérence... Voilà, sans spoiler, mais ça va jusqu'à la fin du générique que la cohérence, on la retrouve. Et ça, c'est très agréable. Et c'est un film que je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà.
Super, merci beaucoup. Nathan ?
Moi, j'ai vraiment envie de répéter tout ce que vous avez dit, en fait, parce que, comme toi, Victoria, moi, c'est un film que j'attendais énormément. J'en avais parlé dans la dernière émission de 2023 comme le film que j'attendais en 2024. Et pour ma part, j'ai pas du tout été déçu. Au contraire, comme tu l'as dit, Louis, moi j'ai été heureux de retrouver Quentin Dupieux. Parce que dans ses derniers films, alors à part Yannick, qui est vraiment à part et qui tient aussi en grande partie par la performance de Raphaël Quenard. Mais sinon, dans
ses... Est-ce qu'il y a une émission où tu ne dises pas le nom de Raphaël
Quenard ? Non, j'essaie de gérer un bingo à chaque fois, voilà, je coche les cases. Mais avant ça, c'est vrai que ses précédents films... ces derniers temps, j'avais un peu l'impression qu'il se perdait, qu'il était en panne d'inspi, quoi. Ou alors qu'il avait au contraire trop d'inspi, mais qu'à vouloir faire trop de films trop vite, ça ramait un peu. Fumer fait tousser, moi j'avais eu beaucoup de mal, et c'était une grosse frustration parce que je trouvais qu'il y avait énormément d'idées géniales. Et là, je trouve qu'on peut pas du tout lui faire ce reproche qu'on lui fait souvent et que je lui avais fait dernièrement. pardon Quentin, mais ce reproche qu'il fait ses films en un quart d'heure, quoi. Et c'est un peu ce qu'on ressentait avec les derniers films de sa filmographie. Et là, je trouve que pas du tout, quoi. C'est vraiment... Enfin, oui, je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai adoré le film. j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Exactement, comme tu l'as dit, Claire, c'est indescriptible, c'est complètement inclassable. C'est très Quentin Dupieux, mais en même temps, il se réinvente plus que dans ses derniers films, je trouve, dans la mesure où il reste dans son style, mais dans un style plus résolument surréaliste, ce qui est évidemment cohérent avec le thème, que simplement absurde. Et j'ai trouvé que voilà, c'était effectivement hyper cohérent, hyper abouti, hyper complet. Je comprends aussi tout à fait qu'on puisse ne pas rentrer dedans, ne pas apprécier, parce que c'est très particulier. Mais je pense que même sans être client de ce style et de ce registre, on peut quand même saluer un gros travail et une grosse intelligence derrière. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup de reproches objectifs à ce film. Et ça fait un peu groupie de dire ça, mais je le pense. Voilà.
Merci beaucoup. Et toi, Antoine ?
Peut-être que Nathan fait partie de cette fanbase toxique des Quentin Dupieux.
Oula, oula, on baisse d'un ton.
non, mais j'ai... Enfin, en plus, je suis entièrement, ce que tu dis, entièrement d'accord avec ce que tu dis. Enfin, je préfère le Dupieux surréaliste au Dupieux absurde. Moi, j'ai vraiment pris mon pied en regardant le film. C'est un film qui est vraiment très agréable à regarder. Où on profite de scènes qui sont complètement gratuites, parce qu'il n'est pas contraint par un scénario ou par quelconque, par quelconque autre carcan. C'est-à-dire qu'il va nous montrer, vraiment il va nous montrer Dali, son personnage, ses folies, ses extravagances, mais aussi son, malgré son surréalisme, son attrait pour le réel. Je pense notamment avec cette scène où il veut que Desmoustiers raconte sa vie et que justement la beauté naît du banal. Et ça, je trouvais ça... vraiment très bien qu'il l'évoque dans un personnage aussi grandiloquent que Dali, cet attrait pour les choses du quotidien qui lui échappe totalement dans son villa, en fait son château oui. Dans le bord de mer. Et la musique est entêtante, ouais. Mais belle à la fois. Alors, je ne savais pas si je devais la détester ou si je devais l'adorer en fait.
Écoute, je l'ai réécouté en venant ici tout à l'heure et en fait, une fois qu'on se dit que oui, vas-y, j'accepte de prendre 10 minutes pour entendre exactement la même boucle, c'est super.
Voilà.
Mais, bon, mais il faut l'accepter.
Et je crois que c'est, enfin, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est Thomas Bangalter,
ouais. Des Daft Punk,
qui a fait la BO.
C'est sûr, c'est
la classe.
Ouais, la classe.
Mais sinon, alors, j'ai adoré, mais je rejoins assez vite. La vie de Victoria, dans le sens de dire que Pio Marmaille et Gilles Lelouch, bah, plus Pio Marmaille, à la limite Gilles Lelouch, ça passe encore, mais Pio Marmaille, je trouve qu'il est complètement. Ouais. Je trouve qu'il casse vraiment le fait qu'on s'accroche vraiment au personnage de Jonathan Cohen et d'Edouard Baird.
Après, moi, enfin, je trouve qu'effectivement, c'est un film d'acteur et que c'est ça qui est vraiment génial. Et je me suis fait à peu près la même réflexion. Alors moi, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Gilles Lelouch, je trouve, avec ça. Mais sans du tout que ça me gêne. Je trouve, enfin, déjà parce qu'on les voit beaucoup moins quand même que,
oui.
Que Cohen et Dorbert. Mais ouais, je vois effectivement. Je pense, je sais pas ce qu'ils apportent beaucoup, si ce n'est juste la démesure encore une fois de trop. J'avais lu qu'il y aurait dû y avoir aussi Jean Dujardin comme Dali, ce qui aurait été amusant, je pense. Mais bon, il va jouer Zorro, donc ça reviendra au même. Mais je trouve que d'une façon générale, il y a quelque chose de brillant à ce que ce soit pas un acteur qui joue plusieurs rôles comme souvent, mais un rôle qui joue plusieurs acteurs. Et là, Victoria, je te rejoins vraiment. C'est l'unité par les costumes, la moustache, et bien évidemment cet accent, mais qui réussit à ne jamais être vraiment ridicule. Je veux dire, c'est pas Michel Leeb, quoi. C'est juste, voilà, ce petit côté surréaliste, ce petit côté de trop qu'on aime vraiment beaucoup, et puis qui rend le film vraiment très très drôle. C'est-à-dire que il y a une réflexion plus profonde sur laquelle on pourra revenir, mais qui n'intellectualise jamais trop le propos, oui. Et qui ne sacrifie pas l'humour comme on pouvait en faire la réflexion sur Making Of. Et j'ai beaucoup ri, hein. Franchement, ça aussi entre des trucs genre un peu fins et juste des grosses conneries par moment, genre le tableau avec le cowboy. Non, j'ai vraiment envie de rire juste de revenir pensant, parce que c'est juste bête, et c'est trop bien de pas se prendre comme ça au sérieux, de réemployer mais jamais en vain genre des éléments de comédie fondamentaux, typiquement les spéniers de repas, un curé,
un prêtre tue un cowboy,
voilà, c'est ça. c'est vraiment juste trop bien, quoi. Les jeux absurdes rendent vraiment un bel hommage à Dali, qui est certes insaisissable, mais dont on sent l'influence à la fois sur le travail de Judith dans le récit, entre gros guillemets, du film, et dans sa réalisation. Et c'est running gag qui concourt à une impression de cyclicité.
Là, je suis d'accord avec toi. J'ai juste, parce que sinon j'ai oublié. Dupieux ne nous prend pas en otage à nous forcer à réfléchir dans le film en disant « Regardez, là, c'est intellectuel, là. C'est beau, c'est méta sur là, machin. » Non, pas du tout. On peut regarder le film simplement comme une succession de mini... Enfin, pas de mini-scènes, mais une succession de scènes un peu décousues et, encore une fois, parfois gratuites, mais... juste agréable à regarder, vraiment on a envie d'en voir plus quoi. J'aurais aimé que le film dure plus longtemps.
C'est à se demander si ça ne devrait pas prêter à, dans le format, à des scénettes, une succession de scénettes qui auraient été diffusées autrement que en salle dans un film d'une heure 16, un peu plus, un peu moins. C'est une question que je me suis posée en sortant de la salle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas je me suis demandé pourquoi cet aspect scénette mise bout à bout. En soi, c'est pas non plus inintéressant parce que, comme tu l'as dit, Louis, il y a cet aspect cyclique, cette construction en poupée gigogne, en poupée russe, on le dit comme on veut. Donc ça,
jamais entendu poupée gigogne.
Poupée gigogne, jamais.
Jamais entendu non plus poupée gigogne. Hein.
Mais en tout cas, c'est une construction qui nous amuse, qui nous perd. Enfin, on revient, on se perd, on se retrouve. Et puis, c'est tout à fait, c'est dans une sorte de tourbillon à la Dupieux. C'est très agréable à voir. C'est vraiment la figure de Dali qui est mise en lumière ici, enfin l'artiste plus que l'œuvre, et c'est un film qui sépare, je dirais, l'œuvre de l'artiste, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que le premier plan, dans ce premier plan, on voit le piano qui, enfin, on voit un piano en fait duquel coule une fontaine. C'est un hommage, un clin d'œil à la fontaine nécrophilique coulant d'un piano à queue. Hein, je cite ce tableau de Dali. Oui. J'ai fait mes petites recherches. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir plus montré l'artiste à l'œuvre en faisant des références à ses œuvres, en citant des personnages qui sont là, qui apparaissent dans les tableaux de Dali. Alors c'est le cas dans une des scènes que j'ai trouvé tout à fait juste, tout à fait rigolote, mais je trouve ça dommage. J'aurais aimé que l'un et l'autre, en fait, Dali et son œuvre, ne soient pas mises à distance, parce que selon moi, il n'y a pas besoin en fait de les mettre à distance pour montrer que l'œuvre, c'était l'artiste plutôt que ses tableaux, en fait.
Ouais, juste sur la question des vignettes, enfin l'enchaînement des scénettes, je trouve que ça se justifie dans le sens où il y a quand même, je trouve, dans le côté cyclique, dans les motifs qui reviennent, il y a un jeu sur les enchâssements, sur les timelines qui se croisent, ou même sur les médiums avec la télé, puis on rentre dans la télé, il y a une interview face cam, mais après, quelques instants plus tard, elle dit qu'elle a pas de caméra, et puis plus tard dans le film, ça revient, et là on trouve la cohérence de elle a une caméra, et je trouve que du coup ça donne ce côté... hyper gratuit que tu évoquais et qui contribue à ce plaisir du film. Et je pense que cette gratuité, c'est aussi ce qui justifie tout simplement le c'est vrai, parce que sinon j'y vois pas trop de raison, mais l'utilisation de plusieurs acteurs pour le personnage de Dali, je pense qu'il y a juste aussi ce côté il n'y a pas besoin de le justifier ou de l'expliquer, quoi. C'est vraiment une espèce de kiff.
Ouais, je suis
un truc gratuit et qui donne plusieurs interprétations aussi. Alors c'est vrai qu'il y en a quand même deux qui se démarquent, c'est Edouard Baird et Jonathan Cohen aussi. Ils se démarquent par temps d'écran, mais aussi c'est vrai que c'est les deux meilleurs, c'est les deux qu'on oublie le plus, et c'est les deux qui font le mieux l'accent aussi quand même, parce que Gilles Lelouch et Pio Marmaille ont un peu plus de mal. Mais après, je trouve qu'il y a un truc marrant dans... il y a quand même des vannes spécifiques à chaque interprète, je trouve. Enfin, c'est subtil, mais par exemple Pio Marmaille, il y a une scène où une de ses seules scènes où il n'arrive pas à parler de lui à la troisième personne, qui est un truc que tous les autres interprètes font très naturellement, très spontanément, et lui il est là, Dali, et c'est, je sais pas, il y a plusieurs approches comme ça, et du coup ça va dans le côté scénette, mais c'est cohérent dans cette espèce d'incohérence de l'onirisme qu'assume complètement le film, quoi. Donc ça m'a pas particulièrement dérangé.
C'est vrai qu'on peut le voir comme une vision un peu kaléidoscopique du personnage.
Moi je trouve que vous avez dit plein de trucs en 15 secondes, et je vais juste revenir sur les acteurs, parce que t'as dit que Victoria, que c'était inutile, je crois, les deux autres. Moi, les deux autres, je suis entièrement d'accord avec vous, enfin, ils jouent vraiment moins bien que Jonathan Cohen et Edouard Baird, mais je pense vraiment que c'était utile, parce qu'on aurait eu deux acteurs en moins, ça aurait fait seulement deux Dali, et que deux Dali, ça aurait fait une espèce de truc, enfin... une espèce de binarité. Enfin, vraiment, je pense que ça aurait réduit le côté créatif du film, qui finalement doit quand même presque tout. Enfin, et ce côté scénette, c'est la même chose. En fait, justement, je trouve que c'est un film qui est étrangement un peu entre cinéma et théâtre. Je trouve qu'il y a plein de choses en fait qui relèvent du théâtre dans ce film, que ça soit le jeu des acteurs, enfin cette attention au jeu des acteurs, que ça soit notre position en tant que spectateur finalement, parce qu'on est beaucoup moins passif, on se demande comment ça fonctionne, on voit un peu comment ils trafiquent en fait finalement plein de plans, comment finalement ça repart en arrière d'un coup quand l'âne avance, en fait c'était en reculant, enfin et du coup cet aspect un peu tableau, bah ça fait sens pour moi et c'est hyper hyper intelligent en fait.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Claire. Et je trouve aussi que, moi, l'idée de cet embriquement dont Victoria aussi tu parlais, ça, et cette idée de tableaux successifs qui vont à toute vitesse, ça évite, moi, je trouve, le film à sketch, qui est une forme qui s'essoufflerait vite. C'est-à-dire que moi, j'aime vraiment bien cette idée de changement arbitraire et sans justification, dans un champ contre champ, hop, c'est plus le même Dali, que, bah, mettons, un film, il y aurait eu Dali 1, Dali 2, Dali 3, Dali 4, Dali 5 à la suite. Et ce qui, d'ailleurs, faisait s'essouffler, fumer fait tousser, sans mauvais jeu de mots. Mais, c'était vraiment pas fait exprès pour une fois.
Pas mal.
Non, mais je veux dire.
Validé par la barre.
Et ce qui. Merci. Ce qui rejoint de toute façon aussi cette idée d'un film qui est travaillé vraiment, et là c'est vraiment une ambition esthétique qu'il ne renie absolument pas en dépit de sa forme très ludique, très amusante, qui est un film qui est travaillé par l'idée de l'infinité, qui est à la fois par une fin qui est sans cesse repoussée, et c'est un film de temporalité cassée qui s'emboîte toujours l'une dans l'autre, mais aussi par certaines des images qu'il porte. Tu parlais de l'image d'ouverture avec cette source qui ne tarit pas, ou encore par la chouette musique de Thomas Bangalter, ouais, qui néanmoins te rend juste fou aussi. et puis qui d'ailleurs, en fait, donc je l'ai réécouté sur Spotify, parce que pour une fois, il y a la musique d'un film de Dupieux qui est accessible facilement, qui s'arrête brusquement, en fait. Hein, le morceau s'arrête... il pourrait continuer, mais au-delà c'est aussi un questionnement, et alors là c'est peut-être trop y voir, mais peu importe à mon avis, sur la réputation, l'héritage d'un artiste, qui demeure ce côté infini précisément, c'est ce qui perdure, puisque là on voit Dali qui est toujours en train de créer, qui fait de sa vie une œuvre d'art sans jamais s'arrêter, et qui en vient en fait, et c'est le côté un peu nostalgique du film, à repousser la mort, vu qu'il y a, il y a aussi cette réflexion un petit peu désabusée, nostalgique sur la vieillesse. Il y a la peur de l'arrêt, cette cyclicité infinie.
Et d'ailleurs, il y a ce Dali 6, là, oui, dont on n'a pas parlé.
Complètement.
Le vieux qui vient justement rompre en fait, ce truc de l'infini qu'on retrouve tout le long. Et qui, encore une fois, je trouve, est super bien exploité, parce qu'il n'est pas trop là pour qu'on ait sans cesse ce rappel de « Ah, c'est un Dali qui va vieillir ». Oh là là, chaque Dali a un sens, on doit essayer de comprendre son rôle, comme tu disais. Et en même temps, ça fait un déséquilibre. Et en fait, vu que tout le film fonctionne vraiment en espèce de décalage en permanence, je trouve que ça marche encore une fois super bien.
Ouais, non, vraiment. Je suis hyper d'accord. Et puis en même temps, il est là pour effectivement faire un petit rappel, tout en disant... là, le cinéma est là un peu pour te dire, et c'est ce qui complémente un petit peu l'aspect théâtral dont tu parlais, Claire, pour te dire, mais bro, vas-y, fais ce que tu veux, en fait. Ça s'arrête jamais, tu peux toujours tricher, continuer, ne jamais vieillir, changer d'identité, peu importe. Et là, je trouve que c'est le côté vraiment fort et puissant du film, qui n'est pas juste un petit exercice de style comme Dupieux peut en faire aussi, quoi.
Ouais, et à tel point que, dans le sens de ce côté foisonnant et tout, à un moment, il y a carrément un Dali qui débarque, qui n'a rien à voir avec Dali, qui a la moustache est foireuse, il ne ressemble pas du tout, il n'a même pas l'accent, il a l'accent du Perche au lieu de l'accent espagnol. Et du coup, ouais, c'est cette espèce de, encore une fois, de gratuité, mais qui en même temps, du coup, est justifiée par juste l'univers dans lequel se promène Dupieux pendant tout le film, et qui se caractérise par cette folle liberté, quoi, et qui là, je trouve, hyper bien retranscrite depuis l'œuvre de Dali, quoi.
Oui. mais c'est quand même le seul film où on peut voir systématiquement un cow-boy tuer un prêtre, et qui me fait vraiment beaucoup rire.
Non, mais l'image de Dali qui signe cette croûte, ouais, comme il dit, c'est super drôle. Et d'ailleurs, je sais pas si, du coup, petit instant fun fact, la personne avec qui j'étais m'a dit que c'était sans doute une référence à une anecdote de Dali qui était au restaurant et qui, au moment de payer, a juste fait une croix sur la nappe, et le restaurateur lui dit... il aurait quand même pu écrire son nom, et il dit non mais je veux juste payer le repas, pas acheter le restaurant. ce qui effectivement est un nouvel hommage quand même à l'esprit d'Ali quand même dans tout ce film, dont on peut aussi saluer l'esthétique. Tu parlais, enfin, t'en parlais Victoria au début. Enfin, je veux dire, c'est le mérite de tourner dans des décors intégralement naturels, vraiment super beaux, avec des accessoires qui sont rarement, et je pense jamais en fait, en effets spéciaux fabuleux. Même la pluie de chiens morts, c'est des peluches qui tombent. Ça donne juste, ouais, en fait, ça donne juste envie d'aller dans le. Il y a la mère qui est là, et c'est à la fois juste pour faire joli et pas trop, et sans surcharger son film de trop de sens ou je sais pas, il arrive à en faire un truc. Où à la fois tout est gratuit et rien n'est gratuit. Et on propose de façon constante 10 000 pistes possibles.
Oui, c'est un film qui va très vite.
Oui, voilà, c'est ça. Cool. Et c'est à toi de choisir ou de refuser. Mm-hmm. Tout est possible, quoi. Il y a même ça un peu avec l'affiche qui reprend des codes graphiques des années 70, genre Nous irons tous au paradis, etc. Mm. Mais qui est induit en erreur, parce que d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce que ça a lieu. On ne sait rien, en fait. Mais, ouais.
Ouais, et je trouve que là où ça dépasse aussi cette simplicité, cette gratuité totale, c'est qu'il y a quand même une grande intelligence du pont entre la peinture et le cinéma, je trouve, mmh. Et qui est à la fois du coup une réflexion sur la peinture, sur l'univers de Dali et tout, et sur le cinéma, dans le fait de donner vie à des tableaux figés, dès le premier plan, comme tu l'as souligné, qui donne bien le ton. Et puis, ouais, il y a cette espèce de dépassement du coup de l'immobilisme de la peinture, avec par exemple quand il y a la pluie de chiens morts, c'est inaudible, donc il y a la question du son qui survient puisqu'on est au cinéma. Il y a aussi l'absurde de la trivialisation d'éléments et de scènes surréalistes qui du coup par définition n'existent pas, et là il fait poser des gens dans les tableaux de Dali alors que c'est, enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, et je trouve que du coup
avec Jérôme Niel d'ailleurs.
Ouais, carrément. Ouais. Et il y a un autre mec de l'univers YouTube, mais alors j'ai pas su le reconnaître, le monteur son qui parle à 3 décibels. Tu vois,
ah, c'est oui.
Et bah, il vient aussi de YouTube, ce mec, mais je sais plus où je l'ai vu ou quoi. Mais... Bref, Quentin Dupieux et YouTube, c'est une grande histoire d'amour, j'ai l'impression. Mais toujours est-il que ouais, je trouve que dans ce fait de donner vie à des tableaux et à la peinture, quoi, par le cinéma, qui, bah, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur. Le cinéma comme paroxysme de l'illusion et tout dans ta chronique sur l'Olivier Py, bah c'est hyper intéressant, quoi, et du coup ça fait que c'est pas complètement gratuit non plus, et il y a malgré tout ce plaisir aussi un peu de ah c'est quand même intéressant, bien joué Quentin, c'est pas juste on se tape des barres, parce qu'on se tape énormément de barres, c'est quand même très drôle. Il y a des gags à répétition qui sont hilarants, le premier, l'arrivée de Dali dans le couloir,
j'étais en deux
frère, c'était exceptionnel. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film qui est encore une fois hyper riche, qui comme tu l'as dit va à 2000 à l'heure, et du coup qui est en même temps qui dure seulement une heure et quart, un truc comme ça, ouais. Et qui est qui est d'une richesse assez assez jubilatoire. Voilà.
Un peu déçu pour ma part qu'il n'ait pas encore plus poussé le curseur de la mise en scène, de la mise en mouvement, des tableaux, des objets. Il y a une scène que j'ai adorée, par exemple, encore avec un animal, c'est celle de la chèvre au tout début, où il y a ce face-à-face, ce regard en miroir de la chèvre et d'Anaïs de Moustier, qui est d'ailleurs excellente dans ce film, on n'en a pas assez parlé pour l'instant. Vrai. Mais j'aurais attendu qu'il y ait encore plus de focus comme ça sur des objets, de tableaux de Dali, je pense que ça s'y prêtait. Et je suis un peu déçu qu'il n'y en ait pas eu plus, mais bon.
Mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, il y a effectivement la super performance d'Anaïs de Moustier, et ça me permet aussi d'embrayer sur un autre point, c'est qu'effectivement, c'est la réflexion un peu plus profonde et fine qu'il y a dans le film, et qui rejoint aussi ce que tu disais, Nathan, sur le pont entre peinture et cinéma. Donc cette réflexion qui d'ailleurs, je le disais, n'était pas trop envahissante, mais elle est néanmoins lucide, parce que le film, ce n'est pas une hagiographie de Dali, hein, du tout, c'est une critique du star system du cinéma, en fait, mais donc avec cette figure égocentrique, imbue de lui-même, méprisante, finalement assez peu attachante qu'est Dali, parce qu'il fait beaucoup rire. Et à nouveau, ouais, la performance de Jonathan Cohen est exceptionnelle, notamment parce qu'il arrive à faire oublier qu'il est Jonathan Cohen, tout en étant très très drôle. Mais donc voilà, et de l'autre côté de ce surréalisme, etc., on a un côté très très réalisme qui est, et on n'en a pas parlé, le producteur de Judith que joue Romain Duris et qui est juste odieux.
Ouais, il est très bon aussi.
Ouais, il est excellent. Il est excellent.
Toujours le cas.
Mais genre vraiment, c'est le genre insupportable, paternaliste à dire mais ouais, bien sûr, t'inquiète que c'est possible. Elle a joué faussement cool. Dans la scène au restaurant qui est,
ah oui,
est éprouvante à regarder d'ailleurs.
Elle le prend pas mal, hein.
Ah, c'est... Oui, bah, exact. Tu as super bien fait, la bonne.
Bah écoute, je suis, je suis la doublure de Romain Duris. Voilà.
OMG, révélation au micro du comptoir du cinéma. Donc, vous pouvez continuer à écouter.
Ça fera la miniature.
Rebecca Manzoni plus révélation sur Antoine. Non, mais donc, ouais, dans la scène du restaurant qui est plus éprouvante à regarder que les verres dans la bouffe chez le curé. Ouais. Et puis de révéler aussi son petit côté connard et misogyne dans une autre scène où il l'engueule vraiment, ouais, qui est aussi éprouvante. À se moquer d'ailleurs, enfin, il se moque des petits films tels que bon, les produits que Quentin Dupieux lui-même. Enfin, c'est... Mais cette réflexion sur le cinéma, à l'inverse de Making of dont on parlait il y a 2-3 semaines maintenant, est amusante, encore plus méta pourtant que Making of, mais plus folle et plus juste en fait.
Moi, peut-être juste pour un dernier truc, c'est que, mais enfin, c'est pas sur le film en soi, mais c'est un truc que je voulais dire en introduction et que j'ai oublié. C'est que je sais pas si c'était pareil pour vous, parce que je sais pas si les bandes annonces sont les mêmes avant chaque film ou quoi, mais le hasard a fait que avant Dali, moi je suis tombé sur deux bandes annonces de deux biopics qui arrivent, qui vont être probablement médiocres, archi classiques et conformistes sous, à savoir le Boléro de Ravel et le film sur Bob Marley aussi. Et ouais, juste dire que ce film-là, juste après, qui n'est pas du tout un biopic, mais vraiment une traversée dans un univers, et ouais, qui est vraiment un anti-biopic, quoi, c'était un contrepoint super, je trouve, à ce conformisme de l'industrie du cinéma, finalement. Voilà, je dénonce un peu, j'en profite.
Ça dénonce, décidément. grosse révélation et dénonciation. Plus guest star Rebecca Manzoni, je pense qu'on va faire... Des views
de stream,
sur cet épisode. Bref, si c'est tout bon, eh bien, concluons. Comme je le dis souvent, il y a des choses qui donnent le smile. En ce moment, on a besoin et Dali donne le smile. C'est en salle depuis une semaine, depuis le 7 février, pour longtemps, à mon avis. Donc, foncez-y de la part du comptoir du cinéma et voilà, tout simplement. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Victoria.
Alors moi, j'ai un conseil théâtre à vous donner aujourd'hui parce que j'encourage les auditeurs et les auditrices à aller au théâtre aussi, aller au cinéma, mais aller au théâtre, alterner. L'un ne va pas sans l'autre. Alors cette semaine, je vous recommande Écrire sa vie de Pauline Bail. Alors si vous êtes assidu au théâtre ou si vous renseignez sur la production théâtrale, actuellement, Pauline Bail, elle a mis en scène de nombreuses adaptations d'œuvres littéraires, notamment Illusion perdue et puis l'Iliade et l'Odyssée plus récemment. Elle est très, très forte, elle excelle en cela, et Écrire sa vie, donc une adaptation des Vagues de Virginia Woolf, va passer du 5 au 8 mars 2024, ce sera au Théâtre de la Croix-Rousse, et puis c'est en tournée aussi en France, donc je vous recommande vivement d'y aller. Et puis aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, cinéma et théâtre vont main dans la main. Une projection du film The Hours de Stephen Daldry à l'Aquarium Ciné Café le 25 février à 18h. Voilà, vous avez les dates, c'est lié et ce sera présenté par un membre du TXR.
Super, merci beaucoup Victoria. Le conseil de Claire.
Oui, donc moi c'est un film, donc c'est Ni juge ni soumise, je ne sais pas si vous connaissez.
J'adore ce film.
Oui, voilà, il est très très chouette, c'est surréaliste mais tout à fait dans un autre genre. Donc c'est de Yves Inon et Jean Libon. C'est entre le documentaire, le film, c'est pareil, un peu indescriptible à décrire, et c'est très très chouette.
Super, merci beaucoup. Le conseil de Nathan.
Et bien moi, en tant que porte-drapeau de la fanbase toxique de Quentin Dupieux, je voulais conseiller, c'est dans le thème quoi, il y a en ce moment la collection Quentin Dupieux, donc plusieurs films de Quentin Dupieux qui sont disponibles sur France TV, et regardez-les tous, et notamment si je devais en conseiller un, c'est Au Poste, que j'avais raté quand il était sorti, que j'ai redécouvert du coup ce week-end, et que j'ai adoré, que je trouve que c'est un de ses films les plus aboutis, dans un style qui est pour le coup vraiment bien à lui, puisque le film date déjà un peu plus, dans ce registre-là, c'est hyper réussi, et c'est un de ses films les plus efficaces, je trouve, dans l'humour absurde. En tout cas, moi, j'ai beaucoup rigolé, et on parlait de pont avec YouTube tout à l'heure, et il y a un des membres du Palma Show qui joue le rôle principal en face à face avec Benoît Poelvoorde dans une salle d'interrogatoire de commissariat miteux des années 70. Bref, c'est un délire, mais c'est très très kiffant. Voilà.
Merci beaucoup, effectivement, regardez Au Poste et vous pourrez plus jamais entendre quelqu'un dire c'est pour ça.
Réel.
Le conseil d'Antoine.
Ouais, moi aussi, c'est aussi sur France TV et j'ai découvert grâce à un ami, Gabriel, dédicace. C'est La Rue Rouge, je crois en français, The Scarlet Street de Fritz Lang. Donc un grand classique du cinéma à voir, un excellent film. Et peut-être, j'avoue que je viens d'y penser, il y a bientôt L'Empire de Bruno Dumont qui va sortir.
Oui.
Et étant un énorme fan, si tu veux, je suis la fanbase toxique de Bruno Dumont, regardez sa filmographie avant, au moins les films récents, donc France ou Jeanne, que je conseille vivement, qui sont des 10 sur 10 en tout point de vue.
Merci beaucoup, ce sera, je crois, celui dont on parlera à la rentrée. Enfin, mon conseil à moi, c'est un film que, même deux, je me rends compte quand j'ai écrit mon conseil qu'il y en a un deuxième qui m'est venu, mais c'est que je voulais un peu, hein, du coup, en rapport avec l'émission, on a eu quand même deux biopics, qui est un genre qu'en règle générale, je n'aime pas trop, ni les films historiques, même si... j'ai regardé de ce qu'on avait, de ce dont on avait parlé au comptoir, il y en a quand même pas mal. Enfin, de films adaptés d'histoires vraies. Bref, peu importe. C'est un genre que j'aime pas trop, le biopic, sauf quand il propose vraiment quelque chose de formellement parlant. Et tel est le cas de Control d'Anton Corbijn. Je sais jamais prononcer, mais bon. Un film sur le chanteur de Joy Division, Ian Curtis. Film magnifique, autant bien sûr pour sa musique, mais qui ne se réduit pas que au tube de Joy Division. Donc magnifique autant pour sa musique que pour son ambition esthétique bien supérieure aux comédies musicales commerciales et sans âme qu'on a pu voir pas mal de fois ces dernières années, qu'on va retrouver avec Bob Marley, tu le disais, Nathan. Un film finalement contaminé, en l'occurrence pour Control, contaminé par son sujet mélancolique en noir et blanc, honnête sans être à charge, empathique sans être en vénération devant son protagoniste. Venu de la photographie, hein, il a été le photographe qui a suivi le vrai groupe. Corbijn faisait avec ce Contrôle, qui a déjà 17 ans, hein, il est sorti en 2007, une proposition esthétique puissante et bouleversante, vraiment pas drôle, hein, bien sûr, mais qui permettait de saisir un peu la personnalité complexe de Ian Curtis et la psychologie de cette époque, de cette classe sociale et de ce groupe musical, amené à bouleverser l'industrie musicale mancunienne, britannique et mondiale. Et pour prolonger votre redécouverte musicale, votre découverte musicale de Manchester entre 1976 et 97, tentez votre chance avec 24 Hour Party People, film sorti un an après Control, je crois, sur la carrière de Tony Wilson, légendaire producteur du label Factory, un film proche de Dali dans la mesure où la folie bienheureuse de son personnage est aussi celle du film qui va formellement dans tous les sens pour le bonheur de son spectateur ou de sa spectatrice. Tout ça est en streaming, alors foncez! Tous ces conseils très bons, très différents, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les quatre, Victoria, Claire, Nathan, Antoine pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci encore à Rebecca Manzoni, merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor. We'll be right back.